Pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas tout à fait une semaine comme les autres qui commence aujourd'hui. Nous l'ouvrons avec les bébés brunes qui, 12 ans après leur début, sont toujours bruns, mais moins bébés. Et je la terminerai dimanche à Montpellier en compagnie des Ladies Ball Breakers, le tribute band féminin des CDC, dont la batteuse me cédera son siège le temps d'un massacre en règle de Highway to Hell, sans compter la nuit de jeudi à vendredi, qui s'annonce blanche et électrique, puisque je vous le rappelle, amis pop-opien, ce sera la nuit de la pop culture en direct sur Inter de 9h du soir à 5h du matin. Autant dire que c'est un marathon auquel je m'attaque, à l'eau claire, le jarret frémissant, la narine fumante, et que j'espère boucler sans y laisser trop de plumes, comme le font les poulets d'élevage en s'envolant brutalement lorsqu'ils aperçoivent le volailler approcher avec son sourire à bouffer de la merde et son opinel numéro 5, oui, comme le Chanel, sauf que là, espère, c'est pas pour te parfumer la gueule. 5 ! Tiens, comme c'est étrange, comme le 5e album des Bébés Brunes qui renoue avec l'enthousiasme et l'énergie de leur début. Un album intitulé Visage au pluriel, et c'est bien normal puisqu'ils sont 3, comme les 3 mousquetaires, Riri, Fifi, Loulou et les pieds nickelés. Les Bébés Brunes sont les invités de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. De Paul.
Bonjour les bébés brunes.
Bonjour.
Bonjour. Toujours brun mais moins bébé donc.
Exactement. C'est très, ça. Très belle accroche.
On est d'accord.
Bien. Plus de rides.
À mes côtés une bébé rousse.
Pas
bonjour.
Du tout.
Charline.
Complètement blonde en fait, Antoine.
Mais
arrêtez de frémir du jarret. Bonjour Antoine.
Ah, des fois une rousse.
Blond vénitien.
Alors les bébés brunes, vous serez tout à l'heure en live sur la scène de Pop Pop Pop.
Petite cette vie, c'est du charabia. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas.
Avec ce titre Charabia, et ce sera en fin d'émission. Au menu également de Pop Pop Pop, on va parler de cinéma et de thérapie avec Cinémathérapie, le livre de Nathalie Faucheux qui nous parlera des films qui font du bien. Mais avant d'en arriver là, écoutez une question qui peut faire mal. Et cette question, c'est... Pour vous les gars, c'est quoi la pop culture ? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses bébisées, roquisantes, brunesques et même burnées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Vanessa Paradis avec qui vous avez collaboré, Adrien.
C'est l'art populaire, effectivement, c'est l'art qui touche les gens. Les gens qui ont l'art de synthétiser quelque chose qui rassemble les autres.
Voilà pour Vanessa Paradis. Et pour vous les gars, c'est quoi la pop culture ?
Répondez avec la même voix que Vanessa. S'il vous plaît.
Non, mais c'est un peu ça. Moi, j'allais un peu répondre la même chose. En fait, je suis un peu embêté. J'allais répondre que pour moi, c'est l'abréviation de populaire. Et ce que j'aime bien penser, c'est que ça doit pas être synonyme de médiocrité. Mm-hmm. Popularité doit pas être synonyme de médiocrité. Et je pense que moi, je me bats pour apporter de la qualité. Et pour moi, voilà, ça peut plaire à beaucoup de monde et être très, très élitiste à la fois, ou en tout cas de bonne qualité.
Ok, ça c'est bon pour Adrien, Félix.
Que dire après ça
Difficile. Hein.
Moi, la pop culture, ça me fait penser à Dark Vador. Voilà. Pour moi, c'est Dark Vador.
Et mon
je
fils.
Suis ton père.
C'est ça.
Dark Vador, ok. Dark Vador, et Bérard, ça lui fait penser à quoi ?
Ça fait penser à Michael Jackson, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours trouvé que c'était. Enfin, c'est le roi de la pop, quoi. C'est tout.
Le roi de la pop.
Tout simplement. Voilà.
Donc ça résume tout, un rapport un peu difficile aux enfants, peut-être.
Voilà,
mais...
à l'enfance.
En dehors de ça, tout va bien. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Visage. C'est un extrait de votre album qui s'appelle lui aussi. Bah, Visage.
Dans une tasse à thé, j'ai bu de la bière. J'ai descendu le toboggan. Je suis arrivé les cheveux en arrière. Je mélange les éléments. J'ai revu ton visage dans tous les autres visages. Je ne passerai pas l'été à t'attendre sur le côté. Pour me sauver, je ferai l'hélicoptère et toi l'avion sans réaction. Je me ramasse à la petite cuillère. Il faut retourner la question. Dans tous les autres visages, je ne passerai pas l'été à t'attendre sur le côté. Tu te voiles de haut, oh. Reviens si tu m'aimes encore. Je ne passerai pas l'été à t'attendre sur le côté. Je ne passerai pas l'été à t'attendre sur le côté. attendre, viens me retrouver.
Visage, cet extrait du nouvel album des Bébés Brunes, intitulé lui-même Visage. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un pop groupe qui doit son nom à la pop culture. Ils ont mis dans un mixeur ça... Et puis aussi ça...
Je suis la longue dame brune. Tu attends. Je suis la
Dame Brune de Barbara et Georges Moustaki, ça donne le groupe qui est en face de nous aujourd'hui. Mais de qui s'agit-il ? Réponse avec leur pop portrait. Alors un pop portrait, messieurs, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Greg Tocque, Christophe Lambert, je l'avais. Aujourd'hui, des invités qui me font dire que la fin est proche. Enfin, la mienne en tout cas, puisque ces fringants garçons qui ont constamment l'air de sortir du drugstore des Champs-Élysées période 65-69 ont désormais, et en réalité, 12 ans de carrière. Et que donc, si ces bébés-là sont désormais des grands, ça fait littéralement et techniquement de moi une vieille. Alors pourtant, je me sentais concernée hein, quand ils demandaient...
Dis-moi si je dois partir.
En 2007, bon après c'est vrai qu'il y avait deux ou trois indices qui auraient dû m'alerter, j'étais déjà patchée à ce moment-là. Je savais que c'était mauvais pour ma santé. Et puis à ce moment-là, avec mon arthrose précoce, ça me rendait déjà la tâche difficile. Et enfin la triste réalité s'est présentée à moi avec l'album précédent.
Tard dans la nuit.
Mais moi, les gars, je peux plus veiller aussi tard, j'ai des responsabilités, il faut que je me lève le matin. Alors pour autant, dois-je arrêter de les écouter et de les aimer beaucoup, beaucoup, malgré ma date de péremption largement passée ? Sûrement pas. Sachez donc, messieurs, que Mémé Blonde est bien contente de vous voir aujourd'hui.
Merci Charline, nous sommes ravis de la voir, la Mémé Blonde, comme bien tous les jours. Alors réglez bien votre
sonotone.
Voilà, réglez-le bien. Oui, c'est l'heure d'entendre ces jeunes garçons parler de pop culture. Félix Adrien Bérald, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le Baron Perché. C'est écrit par Italo Calvino. C'est paru en 1957. Un conte philosophique quelque part entre Voltaire et Alexandre le Bienheureux. Mmh. Et en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, Charline, me suivez-vous sur ce terrain ?
Oh bah je vous suis d'autant mieux que je ne l'ai pas lu. Donc, loin de moi l'idée de vous contredire, c'est à peine si je peux vous dire qu'il y est question de Côme, 12 ans, fils du baron Laverse du Rondeau, qui se dispute avec ses parents au sujet d'un plat d'escargot. Et comme il est colère, il décide de monter au sommet du chêne de leur jardin, d'où il jure ne plus jamais redescendre.
Merci Mémé Blonde. Lequel de vous peut nous en lire un extrait ?
Je savais.
Ah mais je vais me... Alors,
Adrien,
c'est moi. Ce fut le 15 juin 1767 que Cosimo Piovasco di Rondo, mon frère, s'assit pour la dernière fois parmi nous. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombrosa. Les fenêtres encadraient les branches touffues de la grande yeuse du parc. C'était midi et notre famille, en vertu d'une antique tradition, était attablée à cette heure-là. Bien que parmi la mode venue de la cour de France, plutôt lève-tard, ce fut déjà répandu d'aller déjeuner en milieu d'après-midi. Un vent montait de la mer, je m'en souviens, et les feuilles bougeaient. Cosimo dit... Je dis que je ne veux pas et je ne veux pas. Et il repoussa le plat d'escargot. On n'avait jamais vu désobéissance plus grave.
Mmh. Extrait du Baron Perché, d'Italo Calvino, lu par Adrien des Bébés Brunes. Vous aviez moins 35 ans à la parution de ce livre ? Vous gardez un souvenir assez...
Je l'ai lu il y a un peu moins d'un an. Et j'ai vraiment, c'était un immense coup de foudre. Moi, je sais que j'adorais faire des cabanes dans les arbres quand j'étais petit. Du coup, ça m'a énormément parlé. Et il y avait un peu ce côté refus de grandir, anticonformisme. Un peu, c'est une belle rébellion, une rébellion assez poétique, parce que cet enfant décide d'habiter dans les arbres et de ne plus en descendre, quoi. Donc, il passe sa vie, son existence dans les arbres à partir de, je crois qu'il a 6-7 ans. Mmh. Et il arrive quand même à draguer une fille. Il arrive à faire plein de choses. Il se fait des copains. Il y a toute une vie parallèle dans les arbres qui est assez merveilleuse. Et l'écriture est hyper poétique et j'ai trouvé que c'était vraiment un très 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 beau livre quoi.
Vous sentez-vous même perché un peu ?
Oui, complètement.
Vous aimez les escargots ?
J'adore les escargots. En plus, c'était mes amis, justement. Je jouais beaucoup avec eux à l'époque.
Ah oui ?
Oui, j'adorais les escargots. Ils étaient sur mes bras, comme ça, ils se baladaient.
C'était réciproque ?
Je sais pas, j'espère.
Le baron perché d'Italo Calvino. Ensuite, pour le film, vous avez choisi Spinal Tap. C'est un documentaire parodique de Rob Reiner, sorti en 1984. La preuve par A plus B que le rock était un sujet trop sérieux pour être confié aux seuls musiciens, n'est-ce pas, Charline ?
Tout à fait, Antoine. Dans ce documentaire, le reporter Marty Di Berghi filme Spinal Tap dans ce qu'on imagine être la vie quotidienne d'un groupe de métal, soit bataille d'ego, vie de tournée et plan pourri.
Extrait.
Ça, c'est un ampli. Hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien, là. Hein, oui. Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, regarde, là, tous.
Ouais, ah oui, je vois. Et la plupart des amplis 11. Vont jusqu'à 10.
Ouais, exactement.
Et ça veut dire qu'il est plus puissant, que le son est plus fort.
Bah, c'est plus fort d'un cran. Hein.
Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort ? Enfin, soit le maximum, et que le son soit plus fort à 10.
Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Alors, Bérald, 84, hein, la sortie du film, soit quelques années avant votre naissance.
Ouais.
Un film qui concentre avec infiniment de drôlerie tous les clichés, tous les poncifs de la
tous
vie
les clichés,
de
mais
rock, métal.
Tous les clichés, mais finalement, il y en a certains qu'on a pu vivre parfois sur...
Lesquels, par exemple ?
Que ça soit de se perdre dans les coursives, de... je sais pas...
Concert en maison de retraite ? Non.
Ça, on l'a pas fait.
Pas encore.
Ou je sais pas, un truc qui se bloque pendant le... Parce qu'il y a une scène très drôle, le bassiste reste bloqué dans son œuf la première chanson. Bon, on n'a pas d'œuf sur scène, mais on a déjà eu des trucs, des problèmes un peu dans le genre. Mais...
C'est ce qui vous a donné envie, à votre tour, de faire de la musique, de faire un groupe ou...
Moi, c'était plus le fait d'écouter de la musique qui m'a donné envie. Mon père était très mélomane, il écoutait du punk, du reggae, etc. Et il m'a donné... voilà, cette fibre-là, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ce genre de film, ça donne envie de faire des concerts, même si ça se passe pas toujours bien.
Très bien, alors, passons maintenant à la série. Et cette série, c'est Stranger Things, créée par les frères Defer, diffusée depuis 2016 sur Netflix. Une série, et ce n'est pas fait pour déplaire à nos bébés, qui a un parfum marqué d'années 80, n'est-ce pas, Charline ?
Hawkins, Indiana, année 1983, Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent à sa recherche et tombent sur une jeune fille qui, au lieu de clamer « Je ne suis pas un numéro !» revendique le fait de s'appeler Eleven.
Bien, un aperçu de la dernière saison en date sortie au tout début de l'été.
Et s'il était jamais parti ? Et si on l'avait enfermé ici avec nous ? Il cherchera à s'agripper à quelqu'un. Oui, nous allons tous t'anéantir. Nous anéantirons aussi tes amis. Et après, on s'occupera d'anéantir tout le monde.
Stranger Things, alors cette fois-ci, vous étiez né hein, quand la série a été tournée, mais l'histoire se passe 6 ans avant votre naissance. Ça veut dire quoi? Que vous n'aimez pas la pop culture de votre époque?
Non, pas du tout. On n'a pas envie d'être de sonner réac ou quoi que ce soit. Il y a des très belles choses aussi dans notre époque qui se passent. Moi, je pense par exemple à Lemon Twigs ou à Foxygen, des groupes que j'adore qui sont d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est vraiment la bande-son de cette série qui m'a interpellé d'abord. Et effectivement, par exemple, c'est vrai que Visage, on nous dit, la chanson Visage, on nous dit qu'il y a un petit rapport avec Stranger Things dans le choix des claviers, le son, le clip aussi, peut-être un petit peu. Ouais. Ce qu'on aime dans cette série, c'est le côté... effectivement, années 80, même si notre album s'inspire pas que des années 80, il y a aussi beaucoup des années 60, etc. Mais peut-être le côté science-fiction et le côté le monde et en fait les héros, c'est des adolescents, quoi. C'est des enfants et le sort du monde dépend est entre les mains d'enfants. On trouve ça assez cool comme idée.
Et puis les acteurs sont vraiment incroyables. Moi, j'adore les acteurs. Je suis fan de Eleven. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui est très très drôle, mais ils sont vraiment d'une drôlerie.
Dustin.
Je crois que c'est lui, ouais.
Ouais, je pense ça.
Et ouais, c'est vraiment une série que j'ai dévorée, en fait. J'ai tout regardé d'un coup.
Ça, c'était Félix, et ouais. Bérald est d'accord aussi.
Moi, j'ai vu les premières saisons. Je suis pas un grand. Enfin, je suis pas trop de séries, c'est pas trop mon truc.
Ouais.
Mais j'ai vu que mon petit cousin adorait ça, alors qu'il a, je sais pas, 8, 10 ans.
Ça fait peur, pourtant.
Mais ouais, alors.
J'y pensais ce matin, rassuré,
et,
quoi.
Je regardais des dessins animés, quoi. Je regardais Dragon Ball et lui regarde Stranger Things.
Ouais. C'est lui qui regarde.
C'est bon d'avoir peur quand on a 8 ans.
C'est ça.
Bien, alors il me manque juste une chanson pour terminer cette pop list. Et cette chanson culte, c'est celle-ci.
Oh my love, for the first time in my life. My
1971, Oh My Love de John Lennon, cet extrait de l'album Imagine. Mais, ne s'agit-il pas d'une déclaration d'amour de John à Yoko?
Hein? Exact.
C'est une balade certes tendre et chavirante, mais pour Yoko? Bon, c'est Félix qui s'y colle.
Ben ouais, non, John Lennon, moi, c'est, je pense, un de mes artistes préférés de tous les temps, quoi. Et ouais, les Beatles et John Lennon, surtout. Et cette chanson, et Yoko.
N'oublie pas Yoko.
Mais cette chanson, ouais, c'est une déclaration d'amour incroyable, qui est en plus assez contradictoire, parce que c'est des accords très mineurs et très tristes, en fait. Si on comprend pas les paroles, on a l'impression que quelqu'un est mort, vraiment, quoi.
Ouais.
Alors qu'en fait, non, c'est une déclaration d'amour. Et c'est, je pense, une des meilleures, des plus belles chansons qu'il ait jamais écrites. Pour moi, en tout cas, selon moi.
D'accord avec
vraiment.
Et c'est George Harrison qui fait la guitare, qui vient le rejoindre pour
en studio.
Faire la guitare.
Et dans tout le répertoire de Lennon, c'est cette chanson-là qui
franchement, celle-ci et A Day in a Life.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Dans le top. Après, il y en a plein, il y en a tellement aussi que c'est dur de choisir un top, mais ouais, il y a celle-ci qui ressort.
D'accord. Très bien. Eh ben, c'est Yoko, on est tout à fait réjouis. Je résume Le Baron Perché, Spinal Tap, Stranger Things et John Lennon. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Oh my love, for the first time in my life.
Ça, c'est un ampli, hein.
Et s'il était jamais parti?
On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que...
Et si on l'avait enfermé ici avec nous?
Tous les potards sont gradués. Ouais, jusqu'à 11. Non, non, regarde, là, tous.
Oui, nous allons tous t'anéantir.
Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort?
Un vent montait de la mer, je m'en souviens, et les feuilles bougeaient.
Oh, my lover, for the first time in my life.
Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
My eyes can see.
Voilà l'addition d'Adrien, Félix et Bérald, oh, les bébés brunes, mais compactés dans mon mixeur.
C'est magnifique, ça sonne bien.
On s'y retrouve ?
On s'y retrouve énormément.
Bien, alors on va parler de brunes, de bébés dans la suite de Pop 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 avec les bébés brunes. Mais avant ça, comme nous sommes à J-3 de la première nuit au monde de la pop culture et du concert événement de Métronomie, écoutons un tout petit extrait de leur nouvel album Métronomie Forever, Walking in the Dark.
Just holler if you need me.
France Inter. Antoine Decaune.
Déjà un nom. Walking In de Metronomy Forever, cet extrait de... Non, le titre c'est Walking In, c'est ça, c'est extrait de Metronomy oui. Forever, le nouvel album de Metronomy qui vient de sortir. Metronomy qui sera sur la scène de la Nuit de la Pop Culture.
Au Grand Contrôle, à Paris.
Au Grand Contrôle, jeudi 19, entre 9h et 5h du mat. Enfin, ils ne seront pas sur scène entre 9h et 5h du mat.
Bonjour, ah, quoi. Peut-être,
non,
on ne sait pas.
Non. Bon, avant d'aller plus loin, chers amis des bébés brunes que nous accueillons aujourd'hui, évacuons la question qui fâche. Après une douzaine d'années d'exercice, c'est toujours dur d'être un bébé.
C'est toujours dur. Non, c'est pas dur. Ça l'a jamais vraiment été. Je pense qu'on s'estime extrêmement chanceux de faire ce qu'on fait et de pouvoir continuer à tourner 12 ans après. Quoi. Non, c'est génial, sortir des albums qu'on aime.
Mais justement, 12 ans de longévité pour un groupe, c'est presque un âge canonique. C'est quoi le secret pour durer?
Bonne question.
Vraiment, on en a vu exploser en vol. Bien avant ça.
Ouais, c'est vrai, l'envie, c'est hyper important de continuer à avoir envie. Je pense qu'aussi on s'est accordé des pauses. On a eu une pause par exemple. J'ai fait un album solo. On s'est moins vu. Ça nous a aéré, etc. On s'est retrouvé. On était hyper
ça
heureux.
Ça vous a aéré.
Aéré. On allait s'aérer.
Ça vous
comme
a
ça.
Aéré.
Ah, oui, d'accord.
Mais je pense que voilà, l'envie de continuer à faire de la musique ensemble, etc. C'est toujours là, quoi.
C'est ça. Puis on est sympa entre nous. On n'a pas de problème d'ego surdimensionné. Ouais. Tout se passe bien, quoi. Mm-hmm. Vive la vie.
C'est simple.
Et je pense qu'aussi on reste concentré sur la musique et l'envie de faire des bonnes chansons et de la musique. Et je me rappelle le premier album où tout a un peu explosé. On restait vachement sérieux et concentré sur le prochain album et sur le fait de continuer à faire ça, quoi.
Alors l'intention manifeste de Visage, le cinquième album des bébés, c'est un retour au rock électrique, spontané, live, en studio. Où en est le rock aujourd'hui?
Très bonne question. Pour moi, je le vois un peu comme un petit oasis dans un océan de musique électronique et de hip-hop. Et voilà, mais je pense pas du tout qu'il va mourir en tout cas. Et je pense qu'il y a de très très bons groupes qui sortent aujourd'hui. Je parlais d'Element Twigs ou de Foxygen, Junior en France,
Beach Babies qui viennent de sortir un album, voilà. Hyper bien.
Il y a beaucoup de choses qui sonnent très organiques, très brutes et qui font référence aux années 70 et tout en restant modernes, qui sont hyper intéressantes aujourd'hui, je pense.
Et vous sentez, vous, ce besoin des jeunes groupes de reprendre des instruments, de simplement se brancher un ampli sans passer par tous les...
Depuis quelques années, on observe ça. Je pense que c'est un besoin de retourner à quelque chose d'un peu réel et vrai, un peu basique, complètement.
Un album enregistré en live, ça veut dire un album pensé pour la scène?
Tout à fait, celui-là, il est né sur scène en plus.
Il est né sur scène. C'est vrai qu'on a commencé à jouer des morceaux de cet album en tournée, en fait, sur la tournée précédente, et ça a tout de suite marché, en fait, ça a tout de suite fonctionné avec le public, et on s'est dit, ok, il y a un vrai truc à faire, quoi. Et en fait, on a enregistré ces morceaux de la même façon qu'on fait un concert ou qu'on fait une grosse répète enregistrée, en gros. Donc voilà, on faisait 5-6 prises, on prenait la meilleure et c'était dans la boîte.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, donc ça faisait du bien,
Enregistrer en live, ça veut dire concrètement pour les auditeurs, vous êtes en studio, tout le monde est branché, on joue en même temps.
Exact, c'est ça.
Éventuellement un re-re.
Il y a des petits re-re de clavier. Parfois on garde la voix d'origine, mais parfois on refait la voix. Mais
qu'est-ce qu'il y a?
C'est re-re qui me fait rire. Ah, c'est tout. Je suis idiote. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Re-re, oui. Vous faites jamais des pires re-re.
Non, rarement en public, mais bon, c'est un choix. D'ailleurs, votre partie préférée du travail, studio, concert, promo, sachant que personne ne répond jamais promo.
La promo, c'est pas ce qu'on préfère, mais c'est sympa
aussi. Studio ou live, c'est quoi votre partie? La partie où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus...
Je pense que les deux sont très importants, les deux se complètent vachement. J'adore le live parce que quand même tu voyages, tu rencontres des gens, il y a aussi un truc où tu fais ta musique devant 1000-2000 personnes, donc il y a un truc assez... assez direct. Prenant, quoi, assez direct.
Ouais, c'est la récompense en fait, mais je dirais que rien qu'écrire une chanson et la finir, ça apporte énormément de joie. Ensuite, l'enregistrer et arriver à ce que tu veux entendre, c'est génial. Et la concrétisation de tout ça, c'est la partager avec des gens et voir que ça trouve écho chez d'autres personnes, c'est ça le plus beau aussi, quoi.
Bérald? Non, parce que j'ai remarqué que dans un groupe, il y en a toujours un qui parle pas.
Le bassiste.
J'avoue, j'étais ailleurs.
J'avoue, j'étais ailleurs, mais
il n'y a pas de souci.
Dans son palais mental.
Je regardais, il y a une photo de Radio France devant moi. J'ai regardé toutes les fenêtres.
Vous regardez les fenêtres des radios de...
Bah ouais, j'ai regardé toutes les fenêtres. Là,
il y en a beaucoup en plus.
T'es en train de les compter?
J'ai compté.
Vous avez repéré celle de notre bureau?
Bah, j'essaie de voir où on était, mais
je vous montrerai après. J'en reviens un instant au rock. Est-ce que c'est facile dans un paysage musical nettement dominé par le rap et le R&B, de continuer à parler la bonne parole du rock? Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être en mission?
D'être ambassadeur du rock.
Non, d'être en mission.
En mission, en tout cas, c'est vrai que cet album, il est un peu à contre-courant de la pop culture, justement, en ce moment. Donc en mission, je sais pas. En tout cas, on défend cette musique, ouais. On défend cette musique qu'on aime. On a envie qu'elle continue à vivre. Et on pense qu'elle a sa place et qu'elle est tout à fait justifiée, encore plus aujourd'hui, quoi.
Mm-hmm. Mm. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression forcément d'être en mission. Je pense qu'on pense pas vraiment à ça. On est un peu dans notre truc, quoi, dans notre bulle, et on fait ce qu'on fait sans penser à d'autres choses, en fait.
Bérald, on en est où avec les fenêtres de Radio France?
150, 151, 152.
Et de toute façon, vous n'écoutez pas que du rock. Hein. Vous êtes aussi bien, vous citez aussi bien Barbara que Kendrick Lamar, Juliette Armanet que Cléa Vincent. Yes. C'est aussi ça, les Bébés Brunes de 2019, un mix de toutes ces influences pop.
Ouais, je pense. Surtout l'album Puzzle, qui était vraiment, c'était le but, c'était de mélanger le plus d'influences possible et de faire un truc un peu expérimental. Mais cet album, il est vraiment très, c'est très yéyé, et les influences, c'est très folk ou rock. Donc un peu moins sur cet album, c'est moins l'album de l'éclectisme, mais je pense que c'est toujours là, c'est toujours présent en nous et on adore écouter des choses extrêmement différentes, ouais.
Vous dites avec cet album avoir voulu, je cite, faire un album solaire qui rend heureux. Quels sont donc les ingrédients d'un album qui rend heureux? On y met quoi?
Déjà, c'est de on y met du bonheur.
C'est pas plaisir, on va pas parler tout à l'heure du cinéma qui rend heureux. Vous allez voir, on a une émission qui rend heureux aujourd'hui. Ouais.
Non, je dirais déjà qu'il faut se faire plaisir en le faisant pour le communiquer aux autres. Et puis voilà, quoi.
Des tempos assez élevés, je dirais, quand même, pour pouvoir danser dessus. L'état dans lequel l'album a été écrit, c'était un état de lâcher prise, de spontanéité, pas trop cérébral finalement, c'était très instinctif. Et l'état général c'était assez, on rigolait beaucoup, on avait l'impression un peu de faire la fête en travaillant. Donc c'était, je pense que ouais, c'est comme tu dis, Béral, c'est le bonheur qu'on met nous-mêmes dans la musique. Quoi.
Il faut chanter en souriant, quoi.
Très important.
Un album solaire qui rend heureux, moi je veux bien, mais en même temps, qui a envie de faire un album lunaire qui rend malheureux?
Bon Iver.
Bon Iver, par exemple, c'est vrai, non, il y en a qui sont un peu dans une démarche cathartique, mais cathartique sans transformer l'exercice en quelque chose de heureux, donc ça peut être aussi très très sombre, quoi. Mmh.
Sur cet album, le son est brut, organique, votre voix, Adrien, a changé. Serait-ce l'album de la... Vous avez adopté un régime particulier non homologué par le ministère de la Santé?
Pourquoi? Pour pouvoir...
Votre voix a changé.
Oui. Effectivement, mais j'ai un peu envie de m'amuser, j'avais envie de changer de voix, de... Voilà, d'utiliser ma voix comme un instrument de musique, me dire que je suis pas obligé de chanter de telle manière, au même titre que nos albums sont pas obligés de sonner à chaque fois de la même manière. Ma voix, c'est comme un instrument de musique, donc là, certaines chansons, je chante très grave, je prends une voix un peu grave. Je suis content, je pense que j'ai enfin une voix un peu grave, ça y est, donc je peux l'utiliser.
Bérald,
oui.
17, 18, 19, Bérald. 20, 21.
Bérald, hein? Allô?
Bérald. Réveillez-le.
Bérald.
Arrêtez, mon père écoute l'émission.
Bérald, qu'y a-t-il allumer. De commun entre les Bébés Brunes de 2005 et ceux de 2019?
Je pense qu'on n'a pas vraiment changé. C'est vrai que souvent, on nous voit toujours comme des garçons. On nous dit, eh, les garçons. Donc,
c'est des garçons en même temps.
C'est vrai, mais genre
pas de changement de sexe.
Les bonhommes maintenant. Les bonhommes. Oh.
Les bonhommes.
Non, mais c'est vrai qu'on a toujours la même relation, très simple. On aime bien s'amuser, ça c'est clair. On aime bien faire la musique et on est toujours peut-être un peu plus riche, je dirais, mais toujours aussi con.
Bonne définition des garçons. D'ailleurs, si par une habile manipulation du continuum espace-temps, vous croisiez les Bérald, Félix et Adrien de 2005, qu'est-ce que vous leur diriez?
Waouh.
Continue comme ça, mon gars.
Avec cette voix. Félix, c'est vrai, voiture, ouais, c'est... D'accord, ok.
Une lettre de soleil, tout ça. Ouais.
D'accord.
Adrien, pareil.
Aucune idée de ce que je dirais. Je dirais bonjour. Oui, continue, c'est très bien. Continue à t'amuser.
Moi, je dirais change de pantalon.
Pourquoi ça avait vraiment problème de pantalon?
Parce que là, ça allait pas du tout, quoi. C'était tout trop serré, quoi.
Ah bah oui.
Slim. C'est quoi ces pantalons trop serrés?
C'est ça.
Pour Visage, vous avez sollicité Samy Osta qui a réalisé les albums de La Femme, Feu Chatterton ou Junior. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Qu'est-ce qu'il vous a apporté?
On savait qu'on voulait un album un peu rock et brut, et du coup, moi j'adore ce qu'il fait depuis des années. Et on rêvait un peu de bosser avec lui et il a accepté. Et donc après, Samy, c'est quelqu'un qui a une patte vraiment dans ce qu'il fait. On savait un peu où ça allait, donc on lui a laissé les totales libertés, quoi, en fait. Et on lui a laissé mener le bateau et c'était hyper agréable.
On retrouve sur quelques-uns des titres de l'album des sonorités très 80s. C'était déjà amorcé sur Long Courrier, évident sur Puzzle, des sons 80s mais à chaque fois de registres musicaux différents. Qu'est-ce que cette décennie musicale a de si particulier à vos oreilles? En rappelant que pour vous moi, l'avez quand album... même très partiellement connu, voire pas du
tout. Ouais, pas du tout. Ouais. Ouais. 89, c'est chaud.
Ça mais suffit, écoutez.
Mais non, mais il n'est pas que 80 pour moi cet album. Visage, c'est vrai qu'il est très 80, mais après, je pense vraiment aux années 60, 70, à Nino Ferrer, Jimi Hendrix, les Faces. Donc c'est plus pour moi 60-70 vraiment. Après les années 80, je pense qu'on fantasme un peu des époques qu'on n'a pas connues. Et pour cet album, on a écouté que des groupes du passé presque. Donc forcément, on se tourne vers le passé et on fantasme des époques, je pense surtout.
Moi, j'adore les synthés des années 80. J'adore les groupes comme Depeche Mode ou New Order par exemple. Ça, c'est ce qui me fait rêver dans les années 80, vraiment.
Mais Visage, le titre, c'est à cause de Fade to Grey ou aucun rapport?
Non. Non, c'est vrai qu'on nous
c'est
a souvent
qu'on aime
dit,
bien, mais
on adore en tout cas, ouais, Visage et cette chanson Fade to Grey, mais non.
C'était Desireless, non? Visage, Visage.
Voyage.
Adrien, visage. Pas loin. Si mes informations sont bonnes, Adrien, c'est grâce ou à cause de Louis Rego que vous avez chopé le virus du rock. Alors comment va-t-il, Louis? C'est un peu pas le virus.
Je crois qu'il va très bien. Il est grand-père, donc il est très content. Et oui, c'est un peu lui qui m'a prêté la première guitare, il m'a montré des accords, il m'a fait écouter du flamenco et Jimi Hendrix.
Vous étiez plus jazz, vous?
Non, moi j'étais, je ne connaissais pas grand-chose. Oui, jazz classique, ouais. Mais pour m'intéresser au rock, j'avais besoin de passer par un expert, donc c'était...
soit flamenco, soit rock.
Ouais, j'ai juste interdit au début, je me rappelle. Et trois accords en boucle.
Et vous qui avez cité John Lennon en référence au début de cette émission, vous n'êtes pas sans savoir qu'il avait déclaré « le rock français, c'est comme le vin anglais ». Qu'est-ce que ça inspire à un groupe qui est rock en VF ?
Je la connais, celle-ci. Bah, ça inspire...
Est-ce que vous buvez du vin anglais ?
Non, déjà. On boycotte le vin anglais. Il n'a pas forcément tort. Et en même temps, je pense à des gens qui ont embelli la chose. Donc, je sais pas, Bachung... je pense que la langue française, elle est hyper littéraire. Elle n'est pas forcément musicale, mais elle est extrêmement poétique et littéraire. Et donc, c'est pas impossible d'arriver à des choses cool, quoi.
Et puis, vous êtes plus seul maintenant.
Oui, il y a Radio énormément Elvis, de monde aujourd'hui qui font ça très très bien, et on en est très heureux. On se sentait très seul au début.
Bérald,
oui.
18, passons 19.
Passons du rock anglais au brushing français. Je sais que vous avez une passion pour ce chanteur français, Christophe. Alors petit 1, d'où vient cette passion? Et surtout, expliquez-moi la hype autour du chanteur des mots bleus. On a entendu Christine and the Queens reprendre ses Paradis perdus. Et Johan Papa Constantino remasterisé récemment ses mots bleus.
Yes.
Je lui dirai les mots bleus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pop culture, c'est Christophe?
Il en fait partie, en tout cas, je dirais. Moi, pour l'avoir rencontré et côtoyé, je sais que c'est quelqu'un qui a réussi à avoir cette éternelle jeunesse, quoi. T'as l'impression d'être avec un copain, un adolescent passionné des nouveaux instruments, des nouveaux trucs. Tu parles musique alors qu'il a un certain âge, et c'est assez merveilleux de voir quelqu'un aussi embrasé et passionné à son âge. Et puis, mis à part ça, voilà, il a une carrière extraordinaire, il a un nombre de chansons vraiment merveilleuses. Après, expliquer une hype, je pourrais pas dire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est resté intègre et qui a fait son bonhomme de chemin, quoi.
C'est vrai que lui, son grand truc, c'est de faire de la musique dans son studio jusqu'à 10h
du
match, quoi.
Ouais.
C'est assez impressionnant,
et j'aimerais bien faire
pareil. Il a le temps.
C'est marrant, même blonde. Et à quand un featuring, donc?
On a déjà fait Aline avec lui,
ouais.
En featuring du coup, en duo, à la télé. C'était très cool.
Mais pourquoi pas en faire un, enregistrer sur album.
Bien sûr.
Tout à fait.
Sachez qu'il est fan de Nine Inch Nails, donc si vous voulez vous lancer dans une reprise spéciale.
Putain, pourquoi pas.
Voilà. Il faudrait que Bérald soit d'accord.
Je suis tout à fait d'accord, 31, j'adore 32, Christophe.
33.
On en est où avec les flèches là?
Là, il y en a à peu près 157.
Ouh la vache. Adrien, Félix, Bérald, lequel de vous trois c'est faire ça?
Ah, je peux essayer.
Félix,
pas mal, mon petit. Adrien. Ouais.
Ah, j'étais sûr que c'était pour Félix. Félix.
Bravo. Merci. Félix, c'est pour relancer les pop news.
Jenny Beth en vrai solo, c'est pour très bientôt. Les fans ont pu entendre son premier titre dans l'épisode 4 de la saison 5 de la série Peaky Blinders, un morceau dont la merveilleuse chanteuse du groupe Savages a ensuite partagé un extrait sur Instagram. «
Un post sur lequel on peut lire Jennybeth 2020, soit c'est l'annonce d'un album, soit le lancement d'une campagne. Quoi qu'il en soit, je vote pour elle.
January Jones, Barbara Streisand et Gwyneth Paltrow réunis dans une série signée Ryan Murphy et Brad Falchuk. Ça s'appelle The Politician. C'est l'histoire de Peyton Hobart, riche élève de Santa Barbara en Californie, qui a pour ambition débordante de devenir président des États-Unis. Mais avant ça, il lui faudra devenir président du corps étudiant et s'assurer une place à Harvard.
Vous savez, je vais devenir président des États-Unis. J'énonce simplement un fait, je deviendrai président un jour.
Tu préviens, déconne pas avec mon rêve.
Ton ambition me fait très peur.
I want that trophy.
Ce lycée mérite mieux que toi.
Si tu veux le battre, il faut que tu acceptes ta froideur intérieure et que tu l'assumes pleinement.
I want that trophy.
Va te faire voir.
On déteste Peyton bien plus que toi.
Vous croyez que je devrais le tuer?
Quoi? Oui, c'est ce que je crois.
The Politician, ça arrive le 27 septembre sur Netflix.
Antoine aime ici à le rappeler, le rire serait l'ennemi de la volupté. Est-ce une raison pour ne pas se marrer en parlant de la chose? Zep répond non et on le suit bien volontiers. C'est mercredi, jour des petits, que paraîtrait un album qui leur est interdit, ou en tout cas déconseillé. Happy Sex 2, pratique, nouvelle tech, vie de couple, accessorisation de la gaudriole, figures acrobatiques, le tout traité avec humour et précision anatomique chirurgicale. Parmi les titres de quelques planches, on peut trouver Sodo, Fontaine, Dominatrice, Trisome ou encore Facial. Tout ça et bien plus encore, c'est dans Happy Sex 2 de Zep chez Delcourt. Et c'est pour vous, les bébés brunes, si je précise pas, c'est très gênant.
France Inter. Popopo. Antoine de Caunes.
Yes, it's me.
Je l'ai pas.
Gwyneth Paltrow.
Oui, c'est moi. Merci Charlie. D'abord de parler des bienfaits du cinéma, écoutons un artiste qui met tout le monde d'accord, cinéma et musique, David Bowie, Ashes to Ashes.
It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money. To kick, but the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind.
David Bowie, Ashes to Ashes, c'était en 1980 sur l'album Scary Monsters and Super Creeps. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon comme le dit si bien Félix. Félix des Bébés Brunes, en compagnie d'Adrien et de Bérald, qui continue à compter les fenêtres de Radio France. Venu nous parler de Visage, le cinquième album du groupe. Et après le rock qui fait du bien, on va parler du cinéma qui fait le même effet, en compagnie de Nathalie Faucheux. Bonjour Nathalie Faucheux.
Bonjour Antoine.
Nathalie, vous êtes l'autrice d'un livre intitulé Cinémathérapie, quand les films font du bien, aux éditions Henrik B. Car oui, non seulement le cinéma peut faire du bien, tant qu'il ne s'agit pas évidemment d'un film de Benoît Jacquot ou de Fabien Antoniente, et même devenir une forme de thérapie. Voilà un postulat certes réjouissant, mais d'abord présentez-vous, qui êtes-vous et comment vous est venue l'idée de ce livre? Je crois que c'est lié à votre histoire personnelle.
Oui, alors en fait, moi j'ai fait des études de cinéma, j'ai un parcours assez classique en fac de cinéma. Et ensuite, je me suis orientée vers la psychologie en passant un diplôme d'art thérapeute.
Et qu'est-ce que c'est ça, l'art thérapeute?
Alors l'art thérapie, bah c'est lié en fait, enfin c'est essayer d'aller mieux par l'art. Je sais pas trop comment expliquer ça mieux que ça, mais en fait en pratiquant, je sais pas, la peinture, la musique, les films, tout ça, ça apporte un bien-être indéniable de toute façon. Et lors de ce diplôme, j'ai dû mettre en place pour un stage, un atelier de cinémathérapie dans un centre de détention externe pour des détenus. Et en fait, l'idée du livre m'est venue assez rapidement ensuite, quoi.
D'accord. Voilà. Quand vous dites des films qui font du bien, vous ne parlez pas de ce genre de film.
Ça peut aussi, mais bon, après, c'est une question personnelle. Non, je parle de trouver le film qui va nous faire du bien à nous personnellement. C'est-à-dire qu'on a, enfin, le choix. Aujourd'hui, les films sont à disposition sur des plateformes de streaming, etc. Ouais. Et donc, on a un choix, enfin, inouï.
Quelle est la différence entre un film qui fait du bien et un film pour se faire du bien?
C'est la même chose en fait. C'est essayer de trouver dans le cinéma quelque chose qui va nous parler. Ça a des vertus de gestion des émotions indéniables.
Le cinémathérapie, imaginé par un psy américain dans les années 90, désigne le fait d'utiliser des films réalisés pour le grand écran ou la télévision à des fins thérapeutiques. C'est bien ça, l'idée derrière?
Oui,
le...
c'est à peu près ça, oui. Enfin, c'est essayer de trouver encore une fois le film. Il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Whatever Works. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est essayer de trouver, n'importe quel film qui va, on ne sait pas pourquoi, débloquer quelque chose, essayer de nous parler à notre moi le plus profond et essayer d'avancer grâce à ça.
Alors je ne sais pas si le cinéma guérit, mais il console certainement, ce qui est le propre de toute œuvre d'art. Mais qu'est-ce que le cinéma a de particulier par rapport à la peinture, la fiction, la littérature?
C'est un art complet. Il est visuel, il est enfin. Donc je sais pas, c'est on s'approprie depuis tout petit, on a des héros dans des dessins, enfin dans des films de Disney ou peu importe, et on grandit avec, ensuite on en trouve d'autres et on essaye de se les approprier aussi, de prendre exemple, Moi personnellement, les films qui me font du bien, c'est pas forcément des films des feel good movies. Ouais. C'est ça va être, enfin en ce moment par exemple, je suis en boucle sur le documentaire d'Amy Winehouse de Asif Kapadia
tout à fait feel good.
Non, pas du tout même. Et pourtant, ce film, enfin sa destinée, etc., me parle au plus profond. Je sais pas pourquoi, je suis pas une rockstar, mais sa destinée. Sa façon de réagir face aux événements traumatiques qu'elle a vécu, etc. Elle m'inspire.
Ouais.
Donc c'est un peu ça. On est un peu dans l'ère des influenceuses, etc. Pour moi, c'est les films qui m'influencent en fait.
Les Bébés Brunes, si on vous demande un film qui vous fait du bien.
Moi, je pensais au film Brasil,
Bérald.
Je ne savais pas pourquoi, de Terry Gilliam. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Je crois que j'ai vu petit. Et j'avais rien compris parce qu'il est complètement absurde comme film. Mais il m'avait fait du bien. L'histoire m'avait fait du bien et j'aime bien le regarder. De temps en temps, je le montre à tout le monde. Personne ne comprend, mais je suis content de le
montrer. Et tout le monde est content.
Je pense qu'il faut pas essayer. Oui, voilà. C'est ça. Enfin, je pense qu'il faut pas essayer de trop analyser. On ne sait pas pourquoi tel film va nous plaire. Moi, j'adore les films d'horreur. C'est pareil. C'est pas censé être quelque chose qui va m'apaiser, etc. Ouais. Pourtant, il y a une espèce de forme cathartique comme ça, des émotions qui fait que, je sais pas, c'est quelque chose de jouissif aussi.
Adrien?
Un film, moi je dirais comme ça, La Dolce Vita de Fellini. J'aime bien le regarder. J'adore l'Italie, j'adore les errances nocturnes, etc. Je sais pas, ça a un sentiment de liberté un peu. J'aime bien.
Vous sentez bien?
Je me sens très bien.
D'accord.
Félix?
Moi j'aime beaucoup les films de Miyazaki.
Le voyage de Chihiro, par exemple. Ouais. Mononoke. Je sais pas, ça me fait voyager, en fait. Ouais. Ça me, voilà. Ça me fait voyager, j'aime bien.
Et vous, Antoine, un film qui vous fait du bien?
Moi, c'est...
On ne pose jamais la question, je vous la pose.
Chantons sous la pluie.
Ouais. Chantons sous la pluie.
Je m'en doutais. J'ai vu 15 000 fois.
Je parle de Tout le monde dit I love you dans le livre. Ouais. Donc, c'est une comédie musicale aussi. Pareil, qui m'enchante à chaque fois que je le regarde. C'est incroyable comme on y voit la vie. Même les séquences de deuil sont dansées. Mmh. Et enfin, c'est...
Vous, les bébés, vous avez joué dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Mmh. Vous y avez vu une dimension thérapeutique?
Énormément. On était tout en couleur et tout. C'était,
très belle tenue.
Très belle tenue, quand même. Oui.
Très belle tenue.
Très belle guitare.
Est-ce que nos goûts, Nathalie, en matière de ciné, vous en disent long aussi sur notre tempérament, voire nos éventuelles pathologies?
Ça, je sais pas, mais en tout cas, ils diront certainement plus, peut-être, qu'un psy. Quand vous allez chez un psy, c'est une discussion entre lui et vous, et voilà, là le film va vous emmener dans un autre imaginaire, une autre espèce de, ça va vous faire voyager, ça va vous faire du bien, ça va, après tout dépend du film que vous choisissez.
C'est-à-dire, si je vous dis je regarde que des films de Haneke et de Lars von Trier,
il y a un problème.
Il y a peut-être un petit problème de psychose derrière.
Non, mais justement, la liste des pathologies mentales traitées au cinéma est longue, hein, de la dépression à l'autisme, en passant par la paranoïa, les TOC, bon, au total, vous en comptez une douzaine.
Oui.
Pour que je comprenne bien, si moi je suis en dépression, et que je vais voir un film qui parle de la dépression, comme par exemple Mélancolia de Lars von Trier, je vais aller mieux ou au contraire je vais me tirer une balle en direct?
Non, je pense que ça, vous allez vous reconnaître dans la façon, enfin ça dépend du film, mais en l'occurrence dans celui-ci, la mélancolie est très bien traitée et vous allez reconnaître des symptômes qui vous touchent et ça peut faire un effet miroir qui sera salvateur en fait, je pense.
On trouve aussi quelques films français dans votre sélection, du Valéry Donzelli, du Auré Lelouch pour Narco, et dans les films qui font du bien, Le Grand Bain. Donc, 4 300 000 Français ont pu se dispenser d'antidépresseurs. L'expression film qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale prend tout son sens avec celui-là.
Exactement, c'est tout à fait ça. Exactement.
Donc tout le monde allait mieux après?
J'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde s'est un grand nombre s'est reconnu dans le film, puisqu'il a bien marché.
Bien. Nathalie Faucheux, comment s'appelle votre livre ?
Cinémathérapie, quand les films font du bien.
Cinémathérapie, quand les films font du bien. Et c'est édité chez...
Henrik B.
Voilà, je vous fais faire le travail.
Il y a pas de souci.
Dans cette émission. Les bébés, ça soupissait un petit peu. Là, je voyais bien. à côté des fenêtres.
51, alors que, 52, 53.
Pas du tout. Vous nous avez promis un live, messieurs.
Tout à fait.
Dans ce studio. Donc, il est temps de rejoindre la scène mythique de Pop. Allez-y. Pendant ce temps-là, je vais meubler doucement. Messieurs, ça va, Nathalie?
Très bien.
Vous vous sentez bien?
Ah oui, je suis très impatiente de les entendre.
C'est vrai?
Ouais.
Vous vous sentez bien, donc? C'est une émission qui vous fait du bien.
C'est une émission qui me fait du bien.
Pop est une émission qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. C'est ce qu'on me dit tous les jours.
Petite, tu le sais, on ne vit qu'une fois. Et si le temps s'arrête, ce n'est que dans tes bras. L'éternité est une ville inhabitée. Oui, l'éternité est une ville inhabitée. Mais quand je sens ton cœur battre contre moi, j'oublie que dans ce monde c'est chacun pour soi. Que l'immortalité est une impossibilité. Que l'immortalité est une impossibilité. Si l'existence n'a pas de sens, sinon la vue, le goût, lui, le toucher. Et on se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser. Petite, cette vie, c'est du charabia. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. La vérité est une garce déguisée. Et la réalité est une tristesse avouée. Mais quand je sens ton souffle chaud contre moi, toutes mes questions s'envolent vers l'au-delà.
Le paradis est né dans tes cheveux orangés. Le paradis est né dans tes cheveux orangés. Si l'existence n'a pas de sens, sinon la vue, le goût, lui le toucher. Et on se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser. N'a pas de sens, sinon la vue, le goût, lui le toucher. On se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser.
Messieurs Charabia. Merci. Sur la scène de Pop Pop Pop, cet extrait du cinquième album des Bébés Brunes. Merci infiniment pour cette
merci
version acoustique. Merci aussi Nathalie Faucheux.
Merci.
Cinémathérapie, quand les films font du bien, c'est édité chez Henrik B et c'est remboursé par la Sécu. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Tristan Gratalon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop 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 avec Laurent Binet, l'auteur de HHHH, qui vient nous parler de son petit dernier, Civilisation, avec un Z. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos films pour se faire du bien sur YouTube.
Oh God! Oh yes! Yes!
Oui, ça veut dire abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop-pop-pop sur Instagram et Twitter.